Écoutez les poètes. Alors évidemment, vous allez me dire la poésie, mais qu'est-ce qu'on a besoin de poésie en ce moment, sérieusement? Et sur le papier, vous avez sans doute raison. Qu'est-ce que ça peut, la poésie? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça produit? Mais en réalité, le mot poésie en grec, ça voulait dire faire, ça voulait dire créer, et ça, on l'a un peu oublié. Écoutez le poète, écrivait Victor Hugo. Dans votre nuit, sans lui complète, lui seul a le front éclairé des temps futurs perçant les ombres, lui seul distingue en leur flanc sombre le germe qui n'est pas éclos. Écoutez le poète, écrit-il un peu plus haut, Victor Hugo, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fabrique, pour ce qu'il prépare. Il est l'homme des utopies. C'est lui qui, sur toutes les têtes, en tout temps, pareil au prophète, dans sa main où tout peut tenir, doit qu'on l'insulte ou qu'on le loue, comme une torche qu'il secoue, faire flamboyer l'avenir. Écoutons les poètes, écoutons les créer, écoutons les fabriquer, écoutons les faire.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un poète, parfois maudit, mais surtout sacralisé. Que ce soit avec les Libertines, les Baby Shambles ou en solo, il a déjà acquis le statut de légende du rock anglais. Son nouvel album The Fantasy Life of Poetry and Crime sort dans 10 jours. C'est une vague de mélodies, de poésie écrite, composée, enregistrée en Normandie. C'est un disque lumineux. Bonjour, Pete Doherty.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Quel est le pouvoir de la poésie?
C'est pas simplement ce qu'elle peut faire à la personne, à l'enrichissement, à l'élargissement de la vision, ou même le rétrécissement, la concentration, mais c'est aussi ce qui induit l'imagination. Et puis, à son tour, elle fait exploser l'imagination, elle peut faire toutes sortes de choses à la réalité. Il n'y a rien que la poésie ne puisse faire.
Et à vous, précisément, quel effet a-t-elle eu sur vous? Quel pouvoir a-t-elle eu sur vous?
Je sais pas, c'est comme une forme de quelque chose qui développe l'esprit, un narcotique qui développe l'esprit, vraiment. Une sorte d'évasion. Je pense qu'avant tout, c'est une évasion. Parce qu'il y avait certaines barrières à mon désir d'être dans le monde ou de faire partie du monde. Oui, j'avais littéralement ces barrières. Je vivais à l'armée, dans des complexes militaires, des casernes, comme on les appelle. C'est donc un moyen de passer par-dessus les barbelés. La réalité, c'est bien. La réalité, c'est génial. Mais je trouve qu'elle est rarement à la hauteur de l'excitation, du hype, de la poésie. La plupart du temps, je trouve que c'est comme la bande-annonce d'un très bon film. Parfois, elle est meilleure que le film. C'est pas une bonne réponse. Hein. C'était quoi déjà la question?
Je trouve que c'est une bonne réponse. Avec quel poète est-ce que vous avez découvert l'existence de la poésie?
Ah, avec des chansons simples, quand on a 3 ou 4 ans. Des comptines, des chansons des Beatles, des vieilles chansons qu'on chantait, que mon papa chantait.
Quels mots vous reviennent à l'esprit?
Je pense aux chansons que ma grand-mère avait l'habitude de chanter.
I ain't heaven on you see, 'cause if anybody knows a thing or two, that's me.
Ça c'est de la poésie, Peter Doherty.
Yeah, I don't even know what. Oui, je sais même pas ce que c'est. Mais c'est une chanson que ma mémé avait l'habitude de chanter.
Le plus grand poète pour vous, c'est qui?
I think Shakespeare.
Je sais pas, je pense à Shakespeare probablement. Shakespeare.
I feel guilty saying some of his names.
Je me sens coupable de prononcer certains de ses noms à voix haute parce que on a l'impression d'exclure des gens. Alors peut-être Shakespeare ou Rimbaud. Peut-être aussi Hunter Thompson. Je me dis parfois que si je devais être enfermé pendant 5 jours dans un bunker à Kiev, parce qu'il y a des bombes qui explosent, quel livre j'emporterais? On va certainement pas emporter son ordinateur portable, on pourrait pas le charger, ni même son portable, on prendra un livre, bien sûr.
Et vous prendriez Hunter Thompson?
Ah oui, définitivement, il y a quelque chose de poète dans l'âme de Hunter Thompson et dans chaque infime partie de lui.
C'est intéressant parce qu'il se trouve que cette figure du poète, vous l'avez incarnée au cinéma, Peter Doherty, sous les traits d'Octave, dans Les Confessions d'un enfant du siècle, adapté de Musset. Quel personnage est-ce que c'est au fond le poète pour vous?
Un personnage vraiment intéressant parce qu'il avait cette vie de luxe, de privilège. Il se promenait à cheval, en calèche, dans des beaux habits. Il était lié à toute l'aristocratie décadente. Sa vie était un poème, vraiment. C'était génial de l'interpréter et de faire semblant d'être lui.
Et vous, quel poète est-ce que vous êtes?
Je sais pas. Je suis un peu perdu, je crois. Un poète un peu paumé, toujours très curieux. Je suis pas très dogmatique. Depuis 30 ans, j'ai l'impression de me promener dans ce rêve de recherche d'inspiration. Il semble que les mêmes choses m'inspirent au fil du temps, comme cette belle musique. Des gens bizarres, intéressants, morbides. Je sais pas quel genre de poète je dois être.
Ce qui m'intéresse, c'est cette sensibilité exacerbée qui est à la recherche de créations, de sensations de plus en plus fortes chez vous. À quoi on s'expose quand on est à la recherche de sensations de plus en plus fortes?
Je pense que parfois le prix à payer, c'est un plus grand laps de temps entre les sentiments d'accomplissement, d'illumination, de compréhension.
Parce qu'on se perd.
Ouais, parfois. Parfois, il vous arrive une sorte d'accident, vous ne savez même pas ce qui s'est passé. On peut dire quand on a été renversé par un bus ou quand on est tombé d'une falaise, mais vous ne pouvez pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Vous vous sentez brisé. Vous essayez de trouver un sens à ce qui s'est passé, mais vous n'avez plus qu'un vieux carnet avec quelques mots dedans et on ne peut même pas comprendre ce qu'on a écrit.
Avec le recul, quelle est l'émotion la plus forte que vous ayez jamais ressentie?
Parfois, quand je conduis, j'ai l'envie irrésistible d'aller aussi vite que possible et de quitter la route pour me retrouver dans un champ.
Quand est-ce que vous avez commencé à en écrire de la poésie, vous?
Ma maman me dit qu'elle se souvient. Quand je suis né, j'avais 6 mois, elle m'a mis au berceau, elle a dit, c'est une histoire vraie, hein? Elle a dit, c'est l'heure d'aller au lit. Et j'ai dit, le lit, la nuit.
C'est une rime riche.
Ouais, c'est une histoire de ma maman, ça.
Mais sérieusement, vos premiers poèmes, ils parlaient de quoi? Vous vous souvenez?
Oui, je pense. Il y avait un peu d'obsession au sujet de l'Angleterre. Une sorte de nationalisme pervers. Parce que moi, je viens d'une famille de militaires, mais aussi d'une famille d'immigrants. D'Irlandais. Ouais, c'était un étrange mélange de fierté, de conscience, de mon appartenance anglaise, mais aussi de mécontentement général à l'égard de la situation en Angleterre, sans vraiment comprendre le fonctionnement de la société.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à vous entendre, vous me citiez une comptine tout à l'heure quand on parlait de poésie, j'ai l'impression que la poésie et la musique sont intimement liées pour vous, depuis toujours.
Oui, c'était un grand changement pour moi parce que j'aimais la poésie. J'étais attiré par le monde universitaire, mais quelque chose s'est produit. À un moment donné, c'était soit John Donne, Andrew Marvel, soit les Smiths. Certains pourraient dire que ça va bien ensemble, mais je ne le pense pas. Je pense que je me suis perdu quelque part quand j'ai entendu la guitare avec de la poésie. J'ai juste pensé à quelque chose, une étrange alchimie qui pour moi était vraiment somptueuse. Ouais. C'était ça. Donc quand on entend les incroyables paroles de rock'n'roll comme celles des Clash, des Sex Pistols, des Smiths ou des Stone Roses, ou même des Strokes, les paroles du premier album des Strokes étaient vraiment mystiques, pour moi en tout cas. C'était la combinaison idéale pour moi. Je me suis un peu éloigné donc du côté académique et j'ai dû me concentrer sur la guitare.
En tout cas, votre musique, ça fait 20 ans qu'on l'écoute et j'ai envie qu'on se replonge là tout de suite dans 2 décennies de création, Pete Doherty, souvenez-vous, c'est ça. Don't look back into the sun. Now you know that the time has come. And they said it would never come for you. Oh, my friend, you haven't changed. You're looking rough and living strange. And I know you got a taste for it too. Et puis c'est ça aussi, toujours avec les Libertines.
Où ça? Became of the dreams we had.
c'était Baby Shambles, c'était cette balade anglaise si belle. Une dernière sur l'album Grace Wastelands en 2009. Quelle musique, qu'est-ce que c'est pour vous le rock'n'roll?
Guitare, basse, batterie.
And any variation.
Et toutes les variations.
Et quel moyen d'expression?
Je ne sais pas, celui qui convient au moment. En ce moment, je me sens vraiment à l'aise et détendu. Je peux m'exprimer avec une guitare acoustique, une belle mélodie. Mais vous savez, je ne suis pas toujours aussi détendu. Hein.
On en écoutait du rock'n'roll chez les Doherty quand vous étiez petit?
Non, pas tant que ça. Non, juste dans la voiture. Papa avait l'habitude d'écouter les Pet Shop Boys dans la voiture. Il a l'habitude de conduire, d'écouter de la musique.
C'est drôle parce que vous parliez de l'Angleterre et moi je me pose toujours la question, en particulier avec vous, dans quelle mesure direz-vous que la musique fait partie de ce qu'on pourrait appeler le génie britannique?
Comme tous les êtres humains, je pense que les Anglais ont le potentiel d'être des gens spirituels et poétiques. Mais il n'y a pas vraiment de moyen d'expression pour ça, pour beaucoup de gens. Les gens s'engagent émotionnellement dans le sport, l'alcoolisme, des choses comme ça. La musique, c'est comme un... C'est l'un des rares exutoires. Et donc, quand les gens s'impliquent, ils s'impliquent vraiment sérieusement et passionnément.
Mais qu'est-ce qu'il y a de plus rock'n'roll chez les Anglais, à votre avis?
Les étrangers, probablement, pour l'instant. Tous les étrangers qui vivent en Angleterre, c'est tellement intéressant.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que pendant des années, le rock, ça a été la musique de la jeunesse. Or, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Comment vous l'expliquez, ça?
Par définition, parce que c'était une musique pour les jeunes en 1953. Et la plupart de ceux qui y étaient dans le rock, eh ben, ils sont morts. J'ai fait quelques concerts récemment avec mon groupe, les Libertines. Et il y a encore des jeunes dans le public. Nous, on devient vieux, gras. Mais le public est toujours jeune. Et on voit toujours la même chose. C'est pas de la naïveté. C'est juste une foi sincère en la guitare. Il y a quelque chose à ce sujet qui captive encore les gens. Je sais pas si c'est l'espoir de nos jours pour les jeunes. Ça va sembler vraiment bizarre, rien qu'en m'entendant le dire, mais pour moi, j'avais juste un tourne-disque dans ma chambre et j'allais dans les clubs. J'allais danser dans les clubs. Je me peignais, je m'habillais parfaitement. Maintenant, je ne sais pas si j'ai besoin de le faire parce que toute la musique du monde, elle est sur Internet. Mais peut-être qu'il n'y a toujours pas de substitut à être dans un lieu et écouter la musique en direct. C'est sûrement le fantasme ultime de l'entendre en direct, de la ressentir, sentir les gens danser à côté de soi. Pour moi, c'était ça l'essentiel. Vous savez, après le désastre du stade de football de Hillsborough en 89, quand on a dit qu'on ne pouvait plus être debout lors des matchs de football, le seul endroit où on pouvait vraiment avoir cette manifestation du rock'n'roll, c'était dans les concerts. On pouvait encore se tenir debout dans les concerts.
Mais aujourd'hui, quand vous constatez que le rap est devenu le genre musical le plus écouté, ça doit forcément vous interroger. Qu'est-ce que vous vous dites?
Vous savez, quand j'avais 15 ou 16 ans, j'étais la minorité. La plupart des gens écoutaient les Snoop Dogg ou Cypress Hill ou des choses comme ça. Mais moi, je me laissais pousser les cheveux, jouer de la guitare. Alors je me sentais vraiment fier. Les gens pensaient que j'étais un peu bizarre parce qu'ils se disaient « Mais pourquoi ce type écoute de la musique pour guitare des années 60, de la musique des guitares des années 70 et 80 ?» C'était bizarre. Ce qu'on fait alors, c'est qu'on devient comme un... C'est devenu un truc underground. Et après la Britpop et avant les Strokes, il n'y avait que de la pop grand public, du hip-hop et rien d'autre. Et puis soudain, ce truc de guitare underground à Londres a atterri très brièvement pour obtenir comme un petit coup de pouce de l'industrie.
Pour vous, Pete Doherty, qu'est-ce qui fait une bonne chanson?
C'est ça, hein. Question magique. On ne sait pas. On l'entend et on le sait immédiatement. On le sait. On le sent. Premier moment, on sait que ça fait une grande chanson.
Les premiers mots.
Ouais. On le sait, c'est tout. Ça n'existe pas une chanson qui commence en disant « Ah, c'est une super chanson » et puis après 20 secondes, on se dit « Non, non, en fait, c'est simplement... » Non, c'est toujours immédiat et ça dure 3 minutes.
Quelle est la plus belle chanson qui ait jamais été écrite pour vous ?
Jean,
Jean, par les Smiths, peut-être.
Ouais.
C'est étrange, sinistre guitare électrique avec ce récit bizarre d'évier de cuisine. Jean par les Smiths, chanson parfaite, mais aussi des belles comptines, des très belles comptines. L'hymne national ukrainien sonne bien ces jours-ci, je l'entends souvent.
Et votre plus belle chanson à vous ?
J'aime la chanson que j'ai écrite pour Fred, Monsieur Frédéric Lowe, intitulée « La balade de Point de Suspension ». J'ai l'impression que c'est quelque chose, une chose sur laquelle j'ai travaillé, peut-être quelque chose comme « Time for Heroes » par les Libertines. J'aime bien parce que ça fonctionne. C'est un morceau bien fini. Il y a une petite histoire. Et quoi d'autre? Quelques chansons de Grace Westlands.
Il y en a plein que vous aimez bien, en fait.
Ouais.
Je vous pose la question parce que pour ce nouveau disque, The Fantasy Life of Poetry and Crime, vous semblez n'avoir jamais été autant investi dans l'écriture, peut-être moins dans la composition, justement.
Normalement, je compose paroles et musique. Je commence par une idée avec la guitare et les paroles ensemble, mais cette fois, je me suis concentré sur les paroles.
Ce disque, vous l'avez écrit en Normandie, à Étretat, où vous vivez en partie. Qu'est-ce que vous avez trouvé là-bas ? Qu'est-ce que vous cherchiez, peut-être ?
C'est intéressant parce que beaucoup de gens à Étretat me disent maintenant d'arrêter de parler d'Étretat.
Pourquoi ?
Parce que en été, c'est très fréquenté. Il y a trop de touristes, toutes les poubelles débordent. Maintenant, ils me disent, mais arrête de parler d'Étretat, comme s'ils pensaient que c'était moi qui allais.
Alors que pas du tout.
Encourager le tourisme. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Ils ne sont pas intéressés ni à moi, ni à Fred, ni à l'album. Ils viennent quand même.
Et ces paysages, quels effets est-ce qu'ils ont sur vous ?
L'effet est total. Mais là encore, je suis assez susceptible, perméable à la persuasion, à ma façon, influençable. J'aime bien les verts clairs, les gris, les bleus, les bruns de la Normandie. C'est un peu comme un sortilège. Et en ce moment, il est 7h du matin quand il fait jour. C'est un moment magique, je ne peux pas le décrire exactement.
Vous parliez tout à l'heure, et c'est intéressant, de votre enfance avec un père militaire, de ces déménagements permanents, de cette impossibilité de vous poser, de vous ancrer quelque part. Avec le recul, comment vous l'avez vécu, mais surtout en quoi ça vous a aussi un petit peu défini ?
On a beaucoup déménagé. On déménageait tous les 2 ans. Et j'étais un enfant assez sensible. J'ai fait du sport parce que c'était dans la famille. C'est une activité militaire. On joue au football, on court, on fait de la boxe. Mais moi, je suis toujours tombé amoureux des livres, de la musique, depuis mon plus jeune âge. Mais mon papa avait cette idée que les livres et la musique, c'était bien, mais il fallait essayer de s'instruire. Mais dans le monde réel est dur et difficile. Il faut de la discipline, il faut travailler. Parce qu'on ne peut pas survivre avec des livres et de la musique. Ce n'est pas pour des gens comme nous. Mais je me suis dit, peut-être.
C'est quand même intéressant parce que ça place d'emblée votre vie sous le signe du voyage et de l'errance. Dans quelle mesure l'errance a nourri votre écriture ?
Le Wanderlust, la soif de voyage, oui, absolument. Ça a toujours été une aventure pour moi. Aller dans un nouvel endroit. Les gens disaient, ah, ça doit être dur, changer d'école, faire de nouveaux amis. Mais c'était excitant, c'était un défi. Je m'ennuyais jamais.
Qu'est-ce qui vous fait errer aujourd'hui, Pete Doherty ?
Toutes les mêmes choses qui m'ont toujours fait créer. De belles mélodies, de beaux paysages. Ça semble simple, mais elles sont toujours là. Vous savez, les choses essayent. On essaie d'extraire la vie des choses. Ça m'inquiète parfois pour les arbres. Comment font-ils pour survivre dans ce monde ? Mais ils le font. Quand même, ils nous donnent leurs fleurs, ils nous donnent leurs fruits.
On va reparler d'errance, de poésie, de paysage, juste après The Epidemiologist, deuxième extrait de votre nouvel album The Fantasy Life of Poetry and Crime. Vous êtes sur France Inter avec Pete Doherty, vous écoutez Boomerang, évidemment. The best laid plans can oft go to fuck. We run down B&Bs, can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. That is dope, still can be planted. I search and I search, I lurch headlong into atrocities with an exponential no need to epidemiology. Little pink Kenzo, little blue Benzos, hip hop, bebop, all blue.
ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and lurch headlong into atrocities with a velocity known only to very few rational. With an exponential known only to epidemiology. Does she yell, Hammond, Emile Lejeune, Peter Lorre and Humphrey Bogart, Jane Seberg, Daniel Dark, panic in the streets and panic in Needle Park? Oh yes, I search and I search. Knowledge, I lurch headlong into atrocity with an exponential known only to very few ever.
On est quelque part entre le capitaine Haddock, le héros d'un film de Tim Burton, et un Elvis made in Normandie. Le cheveu gris, anarchique, l'œil rond et taquin, la lèvre généreuse, affable et gouailleuse, tout en hauteur, marinière et chaussettes roses, le musicien Pete Doherty, invité de Boomerang ce matin pour parler de mélodie, de mots, mais de guitare aussi. Quand est-ce que vous êtes mis à la guitare?
Je vous l'ai dit, ce moment, quand j'ai décidé, est-ce que c'était les Smiths ou John Donne? Et je suis allé du côté des Smiths. Je pensais vraiment que j'allais être un chanteur et que je devais trouver un guitariste. Et puis j'ai rencontré Carl Barra, et il m'a dit « Non, 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 tu ne seras pas chanteur. C'est lui qui voulait être chanteur. Donc moi, j'ai dû apprendre la guitare. »
À quoi elle ressemblait votre première guitare?
C'est marrant parce que je pensais que c'était une Gibson, mais après je me suis rendu compte que c'était une Giveson avec un V, mais ils l'ont fait ressembler à un B, mais en fait c'était un V.
C'était la sous-marque, quoi.
Ouais, c'était une fausse Gibson. Elle m'a coûté 20 livres.
Vous auriez dû vous en douter.
Bah ouais. Tout le monde le savait. Je le savais pas. C'était une société indienne qui fabriquait des faux.
Et comment est-ce que vous avez appris la guitare?
Ah, je l'ai appris tout seul. Une longue et pénible torture pour toute personne à portée d'oreille.
Quelle est la première chanson que vous ayez apprise à la guitare?
Je crois que j'ai composé une chanson qui s'appelait Billy le Hamster.
Ah, d'accord.
Quand j'étais à l'école, ouais.
Je suppose que c'est l'histoire d'un hamster qui s'appelait Billy.
Ouais, ouais. Il n'a pas été vraiment inventé, ce hamster.
Vous en souvenez?
The song,
la chanson? Non, 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 je vais jamais la rechanter, jamais.
Bah, vous nous avez fait une comptine tout à l'heure.
Non, non, mais quelque part, il y a une vidéo, j'avais 14 ans, je l'ai interprétée à la fête de l'école, et tous les autres enfants me jetaient des trucs. Je voulais un hamster, et j'avais pas le droit d'en avoir un, donc j'avais juste la cage. J'avais 12 ans, j'avais la cage, j'attendais que mon papa change d'avis. J'avais cette cage avec de la paille et tout, mais j'ai jamais eu le hamster.
Tout cela est très triste.
Ouais, c'est un hamster qui a été électrocuté. Une chanson vraiment idiote, terrible, la pire des chansons.
Qu'est-ce qui fait un grand guitariste pour vous? Parce qu'on parlait quand même de guitare.
Je sais pas vraiment. J'aime bien voir leurs jambes bouger quand ils jouent comme un guitariste comme ça.
Ce petit déhanché, Peter.
Ouais.
Précisément, quels sont les guitaristes dans leur jeu, dans leur attitude, qui ont pu vous inspirer?
Bah, quand j'étais plus jeune, j'aimais les guitaristes qui se cachaient derrière leurs cheveux. Pour une raison ou une autre. Ils avaient toujours les cheveux sur le visage, ils se cachaient. Johnny Marr le faisait souvent avec ses cheveux. Bernard Butler. Tout à fait au début de Suède, il avait toujours ses cheveux qui cachaient complètement le visage.
Georges Brassens, on voyait son visage.
Ah, c'est un différent type de guitariste, ouais. C'est plus un troubadour acoustique.
Mais vous l'adorez.
Ah oui, totalement.
Pourquoi ?
J'ai toujours aimé ce mélange. Tout d'abord, c'était le son de la guitare à cordes de nylon. Un son très excitant, très nouveau pour moi. Simple, clair, quelque chose du cru. Comme le goût du Calvados ou quelque chose de genre. Vraiment quelque chose du cru.
À quelle mélodie est-ce que vous pensez?
Ah, je pense à beaucoup de mélodies country et western. Des gens comme Townes Van Zandt, Bob Dylan. Mais aussi Georges Brassens. Et bien sûr, la grande chanson. Les copains d'abord, vous connaissez? Cette histoire bizarre. Ce flux de conscience, j'ai tenté de traduire ces chansons, mais quand on les traduit en anglais, c'est très bizarre. C'est un peu surréaliste, comme des poèmes surréalistes. Et les gens me disent que c'est comme ça en français aussi. C'est pas le radeau de la grand-mère, Eddie Canard.
Enfin, vous comprenez le message quand même.
Le message de base est beau.
C'est intéressant parce que c'est pas le seul artiste français qui vous touche. Peter Doherty, se trouve que dans la chanson qu'on vient d'entendre, The Epidemiologist, vous en citez un autre qui est Daniel Darc. Pourquoi lui?
Deuxièmement, parce que ça rime avec panique à Needle Park.
Jesse Berg,
Daniel Darc, panique à Needle Park. Mais d'abord, ce que j'ai l'impression, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître à titre posthume. Principalement en parlant à Frédéric. Parlant de Daniel et en regardant des documentaires étranges sur lui.
Vous sentez proche de lui?
Un peu, oui. Un peu. J'essaie de le découvrir lentement, sans trop le juger, évidemment. Je pense que nous sommes peut-être rencontrés une fois dans un tabac. On a passé quelques heures ensemble dans un tabac, près de la place Saint-Georges. Il y a longtemps.
Qu'est-ce que vous êtes dit?
Je crois me souvenir qu'il parlait très très fort du groupe Happy Mondays. Et puis, il y a eu une grosse bagarre entre lui et le gars, son copain qui était le propriétaire. Ouais. C'était une après-midi amusante, passée à boire à Pigalle, place Saint-Georges.
Et quand vous entendez sa voix à Daniel Darc, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que vous entendez dans cette voix?
Ce que je vois, ce que j'entends dans beaucoup de traductions, la personnalisation des paroles, c'est presque comme lui, complètement nu, vulnérable. Il y avait une vulnérabilité en lui.
C'est intéressant. Qu'est-ce qu'elle raconte, votre voix à vous, Pete Doherty?
Qu'est-ce que raconte ma voix? Bah, je vais devoir laisser ça à quelqu'un d'autre pour le dire. Hein. Je sais pas. C'est pourquoi on écrit, hein. On dit pas, voilà, vous devez tous écouter ça, et je vais vous dire ce qu'est ma voix, ce qu'elle représente.
Il se trouve, c'est un cadeau, que c'est un titre de Daniel Darc que vous avez choisi de reprendre ce matin, Inutile et hors d'usage, sur l'album Crève-Cœur, composé et réalisé par Frédéric Lau, qui vous accompagne ce matin à la guitare et dont les paroles en anglais ont été adaptées par Bill Pritchard. Ça donne Without Use and All Used Up. Pourquoi ce titre?
Oui, quelque chose d'étrange avec cette chanson. Même maintenant, quand je la chante, on va la chanter maintenant, j'ai toujours besoin d'avoir les paroles sous les yeux parce que c'est comme si j'essayais toujours de comprendre cette chanson. C'est pour ça que je ne veux plus écouter l'original. Parce que c'est tellement triste, c'est tellement déprimant cette chanson. Il faut faire très attention. On ne peut pas simplement chanter des paroles désespérées. Ce n'est pas bien de chanter des paroles désespérées à moins de se sentir désespéré. C'est un équilibre vraiment étrange entre la performance et la réalité. Ça, c'est une chose que je dirais concernant ma voix. Ouais, c'est l'honnêteté. J'aime à penser que je suis honnête. Ouais.
On la chante?
Ok.
«
much use and all used up. Maybe just a little bitter. I'm empty, just a shell, abandoned by the sea. And I can't feel autumn take its toll on me. Sometimes I'm afraid to face the day. How long will I feel this way? I feel that life is spent. Smell that acrid scent. Better to give up. Treasure every breath. Even black, the night is bright. It's too late for soul regrets. When I feel my heart is getting light. Memories hold me back. Overhead, the sky grows dark. I pray to Kiskasapa Fair. Cause we're all waiting for that storm. We're waiting for that thunder. Autumn makes its way to winter. Sometimes wish that I'd been wise. But it's too late. I'm cut down to size, without choosing all used up, 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 without choosing all used up,
without choosing all used up. Without choose and all you stuff. Without choose and all you stuff.
C'est émouvant quand même. Pete Doherty qui reprend Daniel Dark, inutile et hors d'usage, accompagné à la guitare et au cœur par son acolyte Frédéric Clot. Merci d'être venu faire un tour dans cette émission et merci aussi à votre interprète ce matin, le très libertine Michel Zlotowski, ainsi qu'à Guillaume Roux et Thomas Langlin à la prise de son et à la technique ce matin. Je rappelle, Pete Doherty, que The Fantasy Life of Poetry and Crime, votre nouvel album, sort le 18 mars et que vous serez en tournée dans toute l'Europe, le 8 avril à Rennes, le 5 mai au Trianon et début juin à Saint-Brieuc. Merci pour aujourd'hui. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, l'instant M, ça va, chère Sonia?
Ça va, Augustin, moi aussi, j'ai trouvé ça magnifique. Allez, salut, à demain.